votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, cet appel sur l'actualité, ravi de vous accompagner, c'est votre émission, hein. Vous posez vos questions, vous réagissez à l'actualité. Dans une demi-heure, notre débat du jour, on parle politique ivoirienne ce matin. Le paysage a fortement évolué la semaine dernière avec la sortie de prison de Simone Gbagbo suite à l'amnistie prononcée par le président Ouattara. Puis le PDCI et le RDR ont divorcé et Henri Conan Bédié a rencontré Pascal Affine-Guessant pour évoquer un rapprochement PDCI-FPI dans les prochaines semaines peut-être. Alors va-t-on vers un renversement d'alliance? Comment se présente la course à la présidentielle de 2020? Vous nous appelez, vous nous dites ce que vous en pensez. 33 9 693 693 70 ou sur la page Facebook de l'émission, on vous attend. Tout de suite, pour commencer, comme chaque jour, nous tâchons de répondre à vos questions sur l'actualité. Notre premier auditeur est un fidèle de RFI dans le sud-est de la France. Bonjour Amadou.
Bonjour RFI, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Merci Amadou, vous êtes en ligne de Nîmes, soyez le bienvenu et vous avez des questions concernant une autre arène politique, celle de Guinée-Conakry.
Oui, effectivement, suite à la crise politique concernant les élections communales en Guinée, l'opposition et la majorité viennent de conclure un accord. Cet accord concerne 12 communes. Comment va se faire le partage?
Effectivement, Amadou, c'est la semaine dernière qu'opposition et pouvoir sont finalement parvenus à un accord qui pourrait mettre terme à 6 mois de crise post-électorale, ouvrir peut-être enfin la voie à l'installation des élus locaux sur l'ensemble du territoire. Il faut rappeler que depuis les élections locales du 4 février dernier, qui étaient les premières depuis 2005 en Guinée, l'opposition conteste certains résultats, elle a organisé des marches, il y a eu des morts. Et puis mercredi soir, à la veille d'une nouvelle manifestation, un texte a été signé. Bonjour Carole Valade.
Bonjour François, bonjour Amadou.
Correspondant de RFI à Conakry. Alors ce texte, Carole, que dit-il? Est-ce que c'est vraiment un partage de pouvoir, comme le disait Amadou?
C'est un peu plus compliqué que ça en fait. Si vous voulez, le comité de suivi s'est retrouvé face à un dilemme puisque les résultats contestés par l'opposition, ils avaient été validés par les tribunaux et promulgués par la CENI. Donc sur le papier, en fait, il n'y avait plus de recours possible. Donc il restait deux options, soit conserver les résultats, soit refaire les élections, ce qui finalement en fait n'arrangeait personne. Donc en fait, les partis se sont mis d'accord sur une troisième voie en forme d'arrangement politique, si on peut dire. Concrètement, si on prend le texte, en fait, il y a 4 cas de figure. Le premier est concerne 26 quartiers, principalement à Conakry, Dubreka. Et là, donc, c'est l'UFDG qui va désigner les chefs de quartier, mais sans revendiquer de nouveaux sièges aux conseils communaux. Un peu comme si elle considérait plus important d'avoir la main sur les quartiers que les mairies, en fait. Le deuxième cas de figure, il concerne 7 communes de l'intérieur du pays. Et là, eh ben, ce sera l'UFDG, des maires seront UFDG, quel que soit le résultat officiel. Le troisième cas de figure, à Kindia, le RPG s'engage à se désister, c'est-à-dire à ne pas présenter de candidat pour la mairie face à l'UFDG. UFDG qui, en échange, fait la même chose à Dubreka. Et puis enfin, il y a les 4 communes litigieuses de Conakry, à savoir Matam, Dixi, Matoto et Ratoma. Là, c'est un peu le statu quo, on ne touche pas aux résultats, on ne s'échange pas les maires. Tout va se jouer en fait au niveau des alliances politiques. C'est-à-dire que celui qui va parvenir à rallier à sa cause le plus de petits partis ou de candidats indépendants gagnera finalement la mairie. D'ailleurs, le chef du groupe parlementaire RPG résumait assez bien cet accord en disant comme ça, on a voulu préserver la paix en s'arrangeant un peu avec la loi, même si souvent, en définitive, reconnaissait-il, on n'a ni paix, ni stabilité, ni respect de la loi.
Alors je vais juste rappeler pour nos auditeurs qui ne sont pas en Guinée, l'UFDG c'est le principal parti de l'opposition de Sélou d'Alain Diallo et le RPG c'est la coalition du président Alpha Condé. En tout cas, Carole, cet accord il est loin de faire l'unanimité.
Ah non, loin de là. D'ailleurs, si les leaders des deux partis majoritaires semblent satisfaits, il y a quand même plusieurs voix qui se sont élevées contre cet accord. D'abord, de la part de ceux qu'on pourrait appeler les légalistes, des observateurs, des journalistes, des citoyens, qui estiment que l'accord, en fait, viole le résultat des urnes et les textes de loi. Et certains se demandent même ouvertement, je cite, à quoi servent les élections si on aboutit toujours à des arrangements politiques. Et puis, l'autre voix qui s'est élevée contre cet accord aussi, c'était celle de Sidya Touré, le président de l'UFR, qui est la troisième force forces politiques du pays. C'est un accord, disait-il, informel, partial, de partage d'élections, d'élections qui de toute façon n'étaient pas transparentes selon lui.
Oui, et puis finalement il a changé d'avis puisque l'UFR a fini par signer à son tour un accord avec le pouvoir.
Oui, entre-temps, en fait, il y a eu cette visite du président Alpha Condé au bureau de Sidya Touré, et puis cet accord signé hier par lequel le RPG s'engage à se désister au profit de l'UFR pour les mairies de Matam et de Boké. Et en échange, eh bien, l'UFR ne présentera pas de candidat dans 33 communes, dont celle de Matoto à Conakry.
Alors on retrouve Amadou à Nîmes qui avait une autre question pour vous, Carole.
Oui, effectivement, comment s'assurer du respect de cet accord ?
Carole Valade ?
La question est là, hein. Vraiment, c'est difficile à dire. Hein. Pour ce qui est du respect, on ne peut pas trop prévoir l'avenir, mais bon, comme le disait Sidya Touré, la Guinée a quand même une longue tradition d'accords politiques non respectés. Ce week-end, les leaders politiques sont allés voir leurs militants pour expliquer cet accord, parce que le plus difficile, en fait, ça va probablement être ça, ça va être de faire accepter aux gens que le chef de quartier ou le maire, finalement, ça ne sera pas forcément celui pour qui ils ont voté ou celui qui a eu la majorité. D'ailleurs, ça passe déjà très difficilement à Ouédé et Gouassé, deux communes en Guinée forestière qui ont été attribuées à l'opposition par cet accord et où les militants du RPG, le parti au pouvoir, sont sortis manifester. Colère également à Kindia hier, hein, il y a eu des barricades, des pneus brûlés. Bref, pour répondre à la question d'Amadou, la crise, elle est terminée, oui, pour les leaders politiques. Ils le disent d'ailleurs, hein, on passe à la prochaine étape, on capte maintenant sur les législatives. Mais est-ce qu'elle est vraiment terminée sur le terrain? Pas sûr. En tout cas, le comité de suivi va justement se réunir là dans une heure et demie pour entériner ces accords et probablement aussi pour lancer la mise en place des élus communaux.
Et on suivra cela avec vous, Carole Valade, correspondant de RFI à Conakry. Merci à vous, merci également à Amadou, hein, fidèle de RFI à Nîmes, où vous nous écoutez sur Internet. Bonne journée à vous. Direction Abidjan maintenant, où se trouve Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Vous souhaitez des précisions concernant le sort d'Oleg Sentsov, dont on parle ce matin dans les journaux de RFI. Ce cinéaste ukrainien purge depuis 2015 une peine de 20 ans de prison en Russie. Il a entamé une grève de la faim le 14 mai dernier, il y a donc 3 mois tout juste aujourd'hui. Et sa famille est très inquiète de sa situation. Alors Emmanuel, quelle est votre question concernant Oleg Sentsov ?
Okay, les questions, j'en ai trois. La première question est de savoir... pourquoi Oleg Sentsov est-il incarcéré?
Alors pour vous répondre, Marina Sheba est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association Les Nouveaux Dissidents qui a lancé plusieurs campagnes de soutien à Oleg Sentsov. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est en prison aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement?
Clairement. Donc Oleg Sentsov, il faut savoir qu'il est originaire de Crimée. Et lors des événements à Kiev en 2014... il a participé, comme beaucoup d'autres, à ce mouvement d'Euromaïdan, donc ce mouvement de contestation citoyenne. Donc, il a été arrêté par les FSB, service secret russe, donc 2 mois après l'annexion de la région, donc en mars 2014, pour s'être simplement opposé au pouvoir russe. Donc, concernant son procès, il était monté de toutes pièces. Donc la culpabilité des Sentsov se base uniquement sur les témoignages de 2 suspects obtenus sous la torture. D'ailleurs, l'un a ensuite rétracté son témoignage. Donc Oleg a également subi des tortures. On a essayé même de l'étouffer avec un sachet plastique sur sa tête. Donc, comme vous avez dit, il y a 3 ans, en août 2015, il a été condamné par les tribunaux militaires à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes. Donc, il faut bien aussi préciser que Oleg Sentsov est un citoyen ukrainien. Il a été naturalisé par la force et jugé en tant que citoyen russe, ce qui est quand même assez inédit.
Et étant originaire de Crimée, la Russie a jugé qu'il était un national russe.
Oui, parce que selon leur loi, qui est entrée en vigueur, tous les habitants de la Crimée occupée devenaient automatiquement citoyens russes.
Suite au référendum non reconnu par la communauté internationale.
Sauf si vous faites une requête spéciale pour garder les passeports ukrainiens, que Sentsov n'a pas même eu le temps de faire. De toute façon, il n'a jamais abandonné sa citoyenneté ukrainienne. Néanmoins, il a été jugé en tant que simple citoyen russe. Pour ne pas encore rajouter que le transfert des Sentsov depuis la Crimée déjà occupée vers la Russie est également illégal. Donc, alors, ça fait trois ans. Ouais.
Oleg Sentsov a commencé donc sa grève de la faim il y a trois mois, jour pour jour, pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie. Est-ce qu'ils sont nombreux?
Clairement. Donc, la liste comporte 64 noms des prisonniers politiques qui purgent leur peine en Russie et en Crimée de prisonniers ukrainiens.
Alors, le combat d'Oleg Sentsov est porté en France, hein, avec le soutien de nombreuses figures politiques du monde de la culture. Une tribune dans le journal Le Monde a été publiée hier. Elle a tenu à rappeler ce combat. Elle saisit à nouveau le président Emmanuel Macron et lui demande d'agir. Et Emmanuel, justement, vous aviez une question à ce sujet.
Oui, évidemment. Lors d'un appel téléphonique, Emmanuel Macron a évoqué la situation du cinéaste avec le président russe. Quelle a été la réaction de Vladimir Poutine?
Alors Emmanuel Macron a depuis le mois de mai évoqué le sujet déjà à trois reprises, hein, même avec Vladimir Poutine, la dernière fois effectivement vendredi. Sait-on ce que propose Emmanuel Macron? Est-ce que lui répond Vladimir Poutine?
Clairement, il s'agissait bien de la troisième conversation. Donc nous attendons toujours la réaction de Monsieur Poutine, qui a promis de trouver des solutions humanitaires. Je vais rajouter juste qu'il avait un communiqué du service pénitentiaire de la Fédération des Russies qui a bien calculé combien ça coûte au budget fédéral l'incarcération des Sentsov et qu'ils ont communiqué comme quoi les santé, l'état de santé des Sentsov est jugé satisfaisant. Samedi, je rappelle aussi qu'il y aura également une rencontre entre Poutine et Madame Merkel en Allemagne. On compte bien évidemment sur elle et sur la pression qu'elle peut employer sur Poutine, qui va sentir bientôt les sanctions américaines aussi, qui entrent en vigueur la semaine prochaine, les 22 août.
Mais l'ambassadeur de France pour les droits de l'homme disait récemment à la presse que quand on parlait à la Russie de ce cas, on avait l'impression de se heurter à un mur. C'est aussi votre sensation?
Oui, François Croquette, il a bien mentionné cette difficulté de communiquer, d'employer des moyens diplomatiques envers la Russie. Mais à mon sens, à notre sens, notre association, tous les moyens peuvent quand même porter leurs fruits. Et même la campagne, la petite opération qu'on a lancée pour envoyer des cartes à Macron a quand même donné ses fruits. Et Emmanuel Macron nous a attendus. Il a quand même appelé et évoqué les cas de Sentsov pour la troisième fois. Donc je reste positif.
Emmanuel, vous avez une dernière question pour notre invité?
Oui, évidemment. La Cour européenne a-t-elle les moyens pour faire pression sur la Russie pour la libération de tous ces prisonniers politiques et d'Oleg Sentsov?
Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé à Moscou de s'assurer qu'Oleg Sentsov reçoit des soins appropriés, mais peut-elle faire plus? Peut-elle assurer un suivi de sa condition, peut-être?
Il faut savoir que pour la communication, le dernier communiqué de la CEDH, donc c'était fin juillet, c'était suite à la saisie en fait de l'avocat de Sentsov en vertu de l'article 39 qui s'applique dans les cas vraiment exceptionnels concernant les soins médicaux. Donc ce qui a fait que la CEDH a appelé la Russie à donner à Sentsov des soins appropriés. Ce qui a fait que le service pénitentiaire russe a communiqué, comme j'ai évoqué à son tour, en disant que l'état de santé est satisfaisant. Donc oui, c'est un peu un mur vers lequel on se bat. Mais il faut comprendre que la CEDH a des pouvoirs et un rôle aussi limité, surtout en Russie. Parce que la Russie a adopté en 2015, ils ont adopté une loi qui affirme la primauté de la constitution russe sur les décisions de la CEDH. Donc clairement, ça veut dire que la Russie considère qu'elle n'a pas d'obligation d'exécuter toute décision prise par une organisation internationale. Donc néanmoins, on estime que cela a une portée assez symbolique et ça peut quand même bouger les choses. Mais il faut aussi en compte être réaliste que la justice internationale, d'autant plus que la CPI qui n'a aucune juridiction sur la Russie parce qu'elle n'a pas adopté le traité de Rome, n'a aucun effet juridique.
Merci Marina Sheba d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association Les Nouveaux Dissidents et merci à Emmanuel d'Abidjan. Oleg Sentsov, lui, continue son combat. Il refuse d'être transféré dans un hôpital. Il dit qu'il n'est pas malade. Il continue donc son combat mais a déjà perdu 30 kilos en 3 mois, ce qui forcément inquiète ses proches et sa famille. La dernière question de ce matin a aussi un lien avec la Russie, mais davantage avec la crainte qu'elle inspire, tout comme la Chine, aux États-Unis. Et cette question, c'est Alcéni qui va nous la poser. Bonjour Alceni.
Bonjour François Mazé et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en ligne de l'Abbé en plein cœur de la Guinée et vous souhaitez en savoir davantage sur l'armée de l'espace annoncée par le vice-président américain Mike Pence.
Oui, les États-Unis vont créer une force de l'espace en 2020, annonce le vice-président Mike Pence. Quels sont les principaux motifs de la création de cette armée et comment sera-t-elle composée?
Philippe Goloub va vous répondre. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Alors l'armée de l'espace sera une sixième force autonome au sein du commandement américain et à entendre cette annonce, on a l'impression que la guerre des étoiles, ce n'est plus une œuvre de science-fiction, mais bien une possibilité stratégique et militaire.
Alors effectivement, il faut savoir que les programmes militaires spatiaux des États-Unis auparavant étaient coordonnées et concentrées au sein du commandement stratégique. Et l'idée ici est de créer un commandement séparé pour tout ce qui concerne la planification militaire et les opérations militaires éventuelles dans l'espace. Ce n'est pas entièrement nouveau, puisque les États-Unis travaillent sur la question spatiale depuis au moins les années 50, depuis Sputnik en 1957, que les États-Unis ont établi une politique de domination de l'espace depuis cette époque-là et que la course aux armements dans l'espace n'a jamais vraiment été arrêtée pendant la guerre froide ou depuis la fin de la guerre froide. La course aux armements dans l'espace est quelque chose de très intense et devient de plus en plus intense, bien sûr, avec la décision de l'administration de Trump.
Mais il semble aujourd'hui que les États-Unis craignent d'être dépassés par les Russes et par les Chinois qui testent de nouveaux systèmes d'armement de nouvelle génération.
Alors effectivement, une des raisons invoquées par l'administration et par Trump lui-même et son vice-président est que la Chine et la Chine plus que la Russie d'ailleurs, sont en train de développer des missiles hypersoniques capables de détruire les satellites américains et autres objets militaires américains dans l'espace et que les États-Unis ont besoin de répliquer à ces développements technologiques chinois et russes. Je pense qu'il y a évidemment une part de vérité dans cette histoire, puisque les courses aux armements sont toujours à deux ou à trois, c'est-à-dire il y a plusieurs participants, il y a une dynamique des effets de miroir qui jouent, et évidemment le programme américain annoncé par l'administration américaine va intensifier justement les investissements chinois et russes, et autres d'ailleurs, indiens, dans la militarisation de l'espace. Nous sommes donc dans une dynamique dangereuse d'escalade de la militarisation de l'espace qui a commencé pendant la guerre froide et qu'on espérait finir en fin de guerre froide, mais qui recommence.
Et cette annonce de la Maison-Blanche, elle crée aussi des oppositions internes. Alceni, vous aviez une question à ce sujet.
Pourquoi les démocrates s'opposent à ces projets?
Alors Philippe Goloub, les démocrates vont s'opposer effectivement à ce projet. Est-ce parce qu'ils pensent qu'il s'agit avant tout de communication politique et électorale?
C'est pas tellement pour cette raison, me semble-t-il. Ça fait assez longtemps que les experts de sécurité internationale du Parti démocrate s'opposent à des programmes de remilitarisation de l'espace. Je pense en particulier aux déclarations de Joe Biden alors qu'il était sénateur des États-Unis sous l'administration Bush. L'administration Bush, il faut le savoir, avant Trump, avait lancé un programme de ce qu'ils avaient appelé à l'époque « space dominance », de domination de l'espace, auquel s'était opposé le Parti démocrate dans le Sénat à ce moment-là. Donc l'opposition du Parti démocrate était essentiellement fondée sur des considérations de sécurité internationale et d'acceptation du multilatéralisme dans la détermination des choix de politique internationale.
Merci Philippe Goloub d'avoir été avec nous, universitaire, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Et merci à Alceni qui était en ligne de l'Abbé en Guinée. Vous restez avec nous dans 30 secondes, le journal Afrique Matin, dernière édition qui vous sera présentée par Namouri Dosso. Puis notre débat dans 10 minutes sur l'arène politique ivoirienne qui est en ébullition avec la libération la semaine dernière de Simone Gbagbo. Et avec ce divorce consommé entre le PDCI et le RDR et peut-être un renversement d'alliance à venir, vous nous dites ce que vous en pensez, ce que vous attendez de vos dirigeants politiques dans 10 minutes. Merci à tous de votre fidélité.